Radio kiosque.
Lecture subversive une fois par mois. Radio kiosque, l'info kiosque radiophonique de Radio Saint-Afrique.
Garantie sans propagande.
On va dire que je m'appelle Julie et que j'ai 25 ans pour cette interview. Je ne vous donnerai pas ma véritable identité virtuelle parce que je ne suis absolument pas là pour faire ma publicité. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une activité que j'exerce depuis un peu plus de 5 ans, le métier de camgirl.
J'ai un petit peu de retard, hein. Bonsoir, comment tu vas ?
Il faut savoir que camgirl n'est pas mon activité principale, puisqu'en dehors de ça, j'ai un travail tout à fait ordinaire qui m'occupe à temps plein. Mais étant donné les circonstances actuelles, je me retrouve confinée comme plusieurs milliers de Français chez moi. Mes activités virtuelles sont devenues en fait mes activités à temps plein. Le confinement fait ressentir un peu plus de solitude à certains. Je pense qu'ils essaient un petit peu de combler ça en venant échanger en virtuel avec des filles. Des personnes qui en temps normal ne viendraient qu'occasionnellement, là vont revenir peut-être un peu plus régulièrement. Le métier de camgirl ne repose pas et ne tourne pas uniquement autour du sexe. En fait, il y a une dimension humaine qui est très importante. Une dimension humaine dont on n'a pas forcément conscience au début quand on commence là-dedans. Je m'en suis rendu compte en fait comme ça, mais en fait, vous créez des liens avec les personnes qui vous regardent. Si vous devenez active et assidue, vous allez vous créer une fanbase. Une communauté en fait qui va vous suivre au quotidien et avec qui vous allez échanger au quotidien, et des liens vont se créer. Et dans les personnes qui vous regardent, beaucoup vous diront au bout d'un moment qu'ils ne viennent plus sur vos lives pour le sexe, mais en fait pour l'ambiance. La plupart des camgirls exercent de leur domicile, hein, donc elles sont installées soit dans leur chambre, soit dans leur salon, donc sur leur canapé ou leur lit. Enfin, tout simplement parce que c'est plus confortable et plus cosy. Et en fait, ça permet tout simplement de créer aussi une atmosphère plus intimiste avec les personnes qui les regardent. Alors elles sont installées devant leur PC avec une webcam. Et puis à côté, elles ont leurs outils de travail. Voilà. Je vais pas vous expliquer à quoi servent chacun de ces jouets, mais ils servent en fait à animer les lives. Les plateformes de livecam, il y en a des tonnes. Les plus grosses reposent sur un système de diffusion public. C'est-à-dire que les filles en fait sont visibles par tout le monde. Et elles se dénudent, elles effectuent des actions via un type menu, en fonction donc de ce que les viewers choisissent. Alors il y a les viewers, donc c'est ceux qui regardent, et les tipeurs, c'est ceux qui ont des tokens, donc c'est la monnaie virtuelle qui est utilisée sur les lives pour tipper les camgirls, pour leur donner un pourboire. Donc en fait, toute l'animation repose là-dessus. Alors il peut ne rien se passer pendant plusieurs heures, comme il peut se passer plein de choses. Les choses peuvent aller très très vite. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les plateformes prennent une commission. La commission varie, pour la plus basse que j'ai pu connaître, c'est 20%. Ça aussi entre 20% jusqu'à voir 60% parfois. Et donc, ce que vous faites en virtuel, quand vous êtes camgirl, vous êtes aussi obligé de le déclarer. Mais il y a quelque chose de très ironique aussi dans tout ça, c'est qu'à côté de ça, en fait, notre métier, notre activité est légale, mais que ce soit sur les réseaux sociaux ou les plateformes de paiement, ça devient très compliqué en fait d'exercer, parce que on est un peu banni de partout. Les hommes qui nous contactent sont des monsieur tout le monde. Les femmes qui font ça sont des madames tout le monde, on est des amateurs. Si vous regardez même sur les plateformes de streaming vidéo, la pornographie est majoritairement maintenant alimentée par du contenu amateur. Donc, ça veut juste dire que les gens en fait se voilent la face, ceux qui descendent les filles qui font ça, qui les insultent, les rabaissent, les traitent de femmes vénales, en fait ils ont, alors qu'en fait ils sont les premiers à aller les voir, hein, sur les sites de cam ou à aller consommer le contenu vidéo. Donc il y a une certaine hypocrisie dans tout ça.
Bonjour à toutes et à tous. Donc ce mois-ci, Radio Kiosque met en lumière un milieu peu abordé sur cette radio, qui est celui du travail du sexe. Donc, tout d'abord, quand on parle de travail du sexe, de quoi parle-t-on ? Ce terme est issu de l'anglais « sex worker » et désigne différentes professions. Vous pensez probablement directement aux prostituées, mais ce mot désigne également beaucoup d'autres activités comme escort, cam girl, comme la fille qu'on vient d'entendre, acteur et actrice porno, performeur, hôtesse, danseur, danseuse. Donc ça fait quand même beaucoup de monde et beaucoup de profils différents. Donc leur point commun, outre le sexe tarifé et peut-être les a priori les concernant. Donc pour commencer, voici des extraits choisis de la brochure « Stella et le débat sur la prostitution », donc disponible sur infokios.net. Et pour information, Stella est une association québécoise qui lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses du sexe. Alors, l'orientation du débat, encore et toujours la perspective abolitionniste. D'abord, il convient de noter que l'orientation actuelle du débat sur la prostitution n'est ni neutre ni nouvelle et qu'au contraire, on assiste à un recyclage des postulats de base de l'approche abolitionniste. L'abolitionnisme renvoie à la répression de la prostitution et entend l'abolir, la faire disparaître. Les stratégies des abolitionnistes sont à peu de choses près les suivantes. Maintenir farouchement le lien entre trafic et prostitution, s'opposer à toute distinction entre travail du sexe volontaire et prostitution forcée, lutter contre toute tentative de présenter le travail du sexe comme un travail, revendiquer un durcissement de la criminalisation dont celle des clients et revendiquer les subventions pour les groupes s'opposant à la prostitution et travaillant avec des survivantes de cette dernière. Les dispositions criminelles en vigueur au Canada, ainsi que l'application de politiques et règlements municipaux, par exemple, ont pour objet de réprimer la prostitution, c'est-à-dire de punir les adultes qui font le commerce du sexe et d'arrêter sa manifestation en en faisant un crime. Pour nous, toute stratégie abolitionniste, y compris celle visant uniquement les clients et le proxénétisme, contribue ainsi au maintien de la clandestinité de l'industrie du sexe et accroît en conséquence les possibilités d'abus. Un second biais du débat actuel a trait à la façon de poser la question. La prostitution est-elle la forme ultime de l'oppression des femmes ou est-ce un métier comme un autre ? Pour nous, une telle opposition est problématique. Elle ne mène nulle part, si ce n'est que de faire perdurer un système d'opposition binaire où il y a les bonnes et les mauvaises femmes. Les premières dignes de notre soutien et les secondes, notre mépris. Nous ne nous reconnaissons pas dans la traduction qui est faite de nos discours et revendications au sein de cette logique, qui fait fi de la complexité et de la diversité de nos réalités. Loin d'être monolithique, le phénomène de la prostitution est complexe, pluriel et paradoxal. Il n'est bien sûr pas bénin, mais l'inscrire dans une fausse dichotomie contrainte-liberté, femme-victime ou femme-agente libre est dommageable et réducteur. Ces pôles ne sont pas mutuellement exclusifs. Un autre biais du débat concerne l'amalgame commode entre la prostitution et le trafic des femmes. Jadis, il y avait la traite des blanches, aujourd'hui il y a le trafic des femmes. Lorsqu'il implique des femmes, le trafic des êtres humains n'est considéré que sous l'angle de l'esclavage sexuel, exposant la prostitution en tant qu'épouvantail à mater et favoriser une politique de l'émotion et de l'indignation à courte vue, facilement exploitable. Enfin, un autre biais important dans la foulée des interventions abolitionnistes qui monopolisent le discours sur la prostitution et le trafic des femmes renvoie à l'attitude moralisatrice et essentialiste face à la sexualité. Or, nous mettons en cause les approches de la sexualité à travers le prisme de la violence faite aux femmes qui sous-tendent une vision faussement naturelle, universelle, d'une sexualité masculine, brutale, irrépressible, d'une fraternité d'oppresseurs et de violeurs d'une part, et de femmes vulnérables, victimes de l'autre. Quant à la sexualité féminine, nous refusons le postulat moralisateur et misogyne qu'il est fondamentalement impossible de concevoir que les services sexuels se vendent, s'achètent, se commercialisent. Comme si vendre des services sexuels signifiait déjà et toujours s'aliéner, ce qu'il y a de plus précieux et intime pour une femme. Nous dénonçons ce discours unique et faussement universel qui définit la sexualité comme étant la forme la plus haute des rapports consensuels d'intimité et d'identité. Nous ne traiterons pas ici de tous ces biais car ceci dépasse largement les limites de cette intervention. Nous abordons le travail de la prostitution à partir de quatre angles majeurs, le stigmate de la putain, le concept du travail du sexe, la criminalisation et la globalisation.
Thank you. que ya llegó la buena, la que viene de allá, la que ya no se regresa, que vive, que goza, a la que llaman loca, la que se levantó y se la sabe todas. ¡Once perras! Que ya llegó la reina, el alma de la fiesta, la que a todos despeina, que escoge, que toca, que a todos los provoca. Traten de bailar con mi sensualidad, es un nivel tan alto, pero pueden intentar. Querísima, linda, pelazo, cuerpazo, síganme los pasos. Mírame divina, bellísima, fina, cuerazo, culazo, los tengo dominados. ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Ábranse, perras! Llegó la mera mera, el alfa de la noche, el top de las encuestas. Que me ves, que me posas, si yo inventé esas cosas y todo se me dio, girando en un tacón. ¡Ábranse, perras! Llegó por quien lloraba, la que barré muy bien, pero con la mirada. Yo coqueta, morena, mulata, rubia y alta, bruja y hechicera, yo soy lo que yo quiera. ¡Escándalo! ¡Escándalo! Síganme los pasos, mírame divina, bellísima, fina, cuerazo, culazo, los tengo dominados.
No, no era yo la que lloraba amargamente abandonada en un rincón. No, no, nunca fui yo la que vivía de migajas y de sobras de amor. No.
Mesa, champán en mi mansión, chicos guapos en la alberca. Hay que dar el rol, muñecas, vámonos.
Donc c'était une musique tout en sobriété de Gloria Trevi, qui est une ancienne prostituée brésilienne et qui maintenant est devenue genre de Dalida nationale. Donc comprendre le discours des travailleuses du sexe, c'est commencer à changer le regard que l'on porte sur la prostitution en mettant en lumière ses dimensions d'activité économique, ses enjeux de droit et liberté de la personne et de lutte sans merci contre le stigma. Comprendre le discours des travailleuses du sexe n'est pas faire l'éloge et la promotion de la vente de services sexuels, mais bien revenir encore et toujours à l'enjeu central de la lutte des femmes pour leur autonomie économique, sexuelle et sociale. Comprendre le discours des travailleuses du sexe, c'est nous accorder une capacité de jugement et d'action qui tranche radicalement avec la perspective qui nous considère comme victimes, sans libre arbitre, sans contrôle et sans initiative quant à l'orientation de notre vie. Enfin, comprendre ce discours, c'est nous reconnaître comme travailleuses, actrices, sociales, susceptibles de réflexion et d'analyse, de stratégies propres, de regroupement, de lutte, de solidarité entre les femmes et d'autres travailleurs et au niveau international, et de reconnaître nos droits à l'autodétermination. Enfin, comprendre notre discours, c'est dissocier prostitution et trafic des femmes. Oui, la prostitution peut constituer un travail pénible, dangereux, aliénant. Toute stratégie accentuant la criminalisation et la stigmatisation de son statut socio-légal est erronée. Depuis des centaines d'années, les travailleuses et travailleurs organisés se sont mobilisés. Non pour l'abolition du travail, mais pour sa radicale transformation. Il faut mettre un holà à ceux et celles qui prétendent hypocritement libérer les travailleuses du sexe en abolissant la prostitution. Nous le répétons, il faut nous écouter, nous comprendre, prendre acte et soutenir notre colère, notre indignation, nos stratégies de résistance.
There's something going on, I know it. I'm your mother. Tell me what it is. But you gotta speed it up with shit. I'm late for Bible study. What is it, baby? What?
Mama, come doll, take a seat. There's someone you know that you've got to meet. So brace yourself for the big reveal. He's about my height when he's not in heels. Some boys play basketball, he played house with ratchet dolls. It's not Santa Claus, it's time for applause. It's coming out the closet, mama. I like boys, I like pecs. Like them arms when they flex. Like that print in them sweats. Tell them girls, thank you next. I like when he texts me, texty pics of them. Like them abs when there's six of them. Tell them girls, I'm sorry. I like boys, mama.
Boys like me.
I like boys who like boys.
Mama.
I like boys who like boys.
Work.
I like boys who like boys.
Mama.
I like boys and
boys like me.
Yeah. Boys like me.
Yeah, they do.
Boys like me.
Woo.
Boys like
motherfucker boys like me.
I like when they shake it, shake it. I like when they grind real slow. I like when they almost naked. Tell dad I'm so homo. Lights off, doors shut. Tall, dark, clean cut. Thick with a bubble butt. Yeah, mama, I like boys. I like pecs. Like them arms when they flex. Like that print in them sweats. Tell them girls, thank you next. I like when they text me sexy pics of them. Like them abs when there's six of them. Tell them girls, I'm sorry. I like boys, mama.
Boys like me.
I like boys who like boys.
Mama.
I like boys who like boys.
Work.
I like boys who like boys.
Mama.
I like boys and
boys like me.
Yeah.
Boys like me.
They do.
Boys like me. Boys like
motherfucker boys like me.
Style like they name Harry. Chocolate like Tyrese. I pick them up at Berry's. Crunch Planet Fitness. Shirt off in the lawn. Sizzling like grease. By day his name Gaston. By night I call him Beast. Bitch, B to the O to the Y to the S. Boys will be boys and with boys I'm obsessed. Boys in the gym clothes, boys in a dress. And if boys are a crime then I'm under arrest. Cause I've been boy crazy since the Boy Scouts. Fuck the closets, let the boys out. Don't be a camel when you are a llama, period. No comma, bring on all the drama. Mama, I like boys. I like pecs, like them arms when they flex. Like that print in them sweats. Tell them girls, thank you next. I like when they text me sexy pics of them. Like them abs when there's six of them. Tell them girls, I'm sorry. I like boys, mama.
Boys like me.
I like boys who like boys. I like boys who like boys.
Work.
I like boys who like boys.
Mama.
Yeah.
I like boys and
boys like me.
Sorry.
Boys like me.
Not sorry.
Boys like me.
Donc on reprend avec la lecture de Désintox, texte issu du site du STRAS, qui est le syndicat du travail sexuel en France. Donc que ce soit de la part des personnes prohibitionnistes ou de celles qui pensent défendre la cause des travailleurs du sexe, beaucoup de clichés ou de faux arguments circulent sur le travail sexuel. Cette page a pour but de déconstruire ces idées reçues afin de recadrer le débat sur le travail sexuel, d'un côté comme de l'autre. Argument numéro 1. C'est le plus vieux métier du monde, on ne peut pas l'interdire. Ce n'est pas parce qu'une activité ou institution existe depuis longtemps qu'elle en est pour autant légitime. Le viol, le droit de cuissage, la violence de manière générale sont malheureusement des phénomènes également vieux comme le monde. Rien ne saurait pour autant les excuser. Ce n'est pas parce que la pratique est ancienne qu'il ne faut pas prohiber la prostitution. C'est parce que la prohibition n'a jamais fait autre chose que de nuire aux personnes concernées. Les prostituées vendent leur corps. Selon les conventions internationales de 1926 et 56 relatives à l'esclavage, l'esclavage consiste en l'exercice des attributs du droit de propriété sur une personne, ce qui peut notamment se manifester par la vente ou l'achat de cette personne. Or, les travailleuses du sexe ne vendent pas leur corps aux clients, mais fournissent une prestation à caractère sexuel moyennant contrepartie. En tout état de cause, tout travail sexuel ne saurait être assimilé au fait de réduire une personne en esclavage à des fins sexuelles qui constituent un crime contre l'humanité devant la Cour pénale internationale. Connerie numéro 3. Les hommes ont des besoins sexuels irrépressibles. Premièrement, les besoins sexuels ne sont en rien l'apanage des seuls hommes. S'il est vrai que le patriarcat a toujours culpabilisé les désirs des femmes, ça ne signifie pas que celles-ci n'en ont pas. Deuxièmement, si les besoins sexuels ne sont pas irrépressibles, ils ne sont pas pour autant répréhensibles. Certains de nos clients se trouvent en effet dans une situation de misère sexuelle et ou affective, laquelle peut être une entrave au bien-être et à l'épanouissement personnel. Pour d'autres, faire appel à une travailleuse du sexe est un moyen d'enjoliver le quotidien, de s'offrir des moments de détente, de réaliser certains fantasmes qu'ils ne peuvent réaliser dans leur vie privée. Si la prostitution n'existait pas, il y aurait plus de viols. Non, la motivation de la personne qui fait appel à nous est très différente de la motivation du viol. Cette dernière étant généralement fondée sur le sentiment de puissance et de domination retiré du fait d'imposer ses désirs à autrui. Nos clients, au contraire, respectent notre consentement et nos conditions. S'ils ne le font pas, alors ils deviennent des violeurs et non plus des clients. Pour les mêmes raisons, et contrairement à l'argument parfois utilisé par les prohibitionnistes, il n'y a aucune preuve que la légalisation de la prostitution encouragerait le viol. Il faut rouvrir les maisons closes. Au sujet des maisons closes, beaucoup de personnes pensent que ce serait une bonne chose pour les travailleuses du sexe. Or, pour nous, la réouverture de ces maisons ne signifierait qu'un retour en arrière catastrophique, un réglementarisme fondé sur des motivations hygiénistes et économiques qui nous seraient particulièrement nuisibles. Nous ne voulons pas être forcés d'aller travailler pour un patron proxénète qui nous impose horaires, pratiques et tarifs. Nous ne voulons pas que, sous prétexte de réglementer une manière acceptable d'exercer notre travail, un système de prostitution à deux niveaux soit mis en place, et que celles et ceux qui ne veulent ou ne peuvent, faute de papier par exemple, se plier à ces normes, soient encore plus stigmatisés, marginalisés et exploités. Nous voulons que chaque travailleuse puisse choisir la manière dont elle préfère exercer, indépendante ou s'associant, en extérieur ou en intérieur, etc. Il faut faire la différence entre celles qui font ça de manière totalement libre et les esclaves qui sont dans les réseaux. Nous vivons dans une société où les rapports de domination sont très présents. Dans ce cadre, il est très délicat de parler de liberté totale. Nous sommes toutes mues par des contraintes, notamment économiques, et plus celles-ci sont fortes, plus on est vulnérable à l'exploitation de la part d'un tiers. Ainsi, de nombreuses personnes migrent pour échapper à une condition économique insoutenable. En raison des politiques anti-migratoires, beaucoup sont obligées de faire appel à des réseaux envers lesquels elles contractent une dette, qu'elles remboursent par exemple en exerçant le travail sexuel. Si certains réseaux sont de véritables réseaux d'esclavage, il ne faut pas pour autant en déduire, comme le fait la loi actuelle, que toute aide à la migration des travailleuses sexuelles serait de l'exploitation forcée. Ce genre d'amalgame ne sert qu'à légitimer la fermeture des frontières et fait le jeu des politiques anti-migratoires sans proposer de solutions valables aux personnes en situation de détresse économique. On ne peut consentir à la prostitution. Selon les opposants à la prostitution, les travailleuses sexuelles ne sauraient valablement consentir à exercer un travail sexuel quand bien même elles seraient majeures, capables, libres et éclairées, et y consentiraient formellement. Un tel consentement serait, selon elles, eux, le fruit de l'aliénation économique et psychologique des travailleuses sexuelles. Le droit commun considère pourtant comme valable tout consentement donné sans violence, ni menace, ni vol par une personne juridiquement capable de le donner. Le seul fait d'être vulnérable sur le plan économique est juridiquement insuffisant pour invalider le consentement de qui que ce soit. Si c'était le cas, non seulement certaines travailleuses, mais aussi nombre de travailleurs dans d'autres secteurs d'activité devraient être considérés comme les victimes d'exploitation du seul fait de leur situation économique. Nier aux travailleuses du sexe la capacité de consentir valablement à cette activité, qui n'est pas encore interdite, est la négation pure et simple de l'autonomie de chacun, principe fondamental du droit français et européen. La prostitution est une atteinte à la dignité de la personne humaine. Revenons sur ce qu'est la dignité de la personne humaine. La dignité est généralement invoquée soit pour protéger la personne contre les tiers, soit pour la protéger contre elle-même. En droit français, la première approche tend à être privilégiée. Jusqu'ici, la seconde approche est en effet retenue dans une unique affaire, celle du lancer de nain. L'article 16.1 du Code civil, tout comme la décision de 94 du Conseil constitutionnel, qui a conduit à l'introduction de cette disposition en droit français, ne renvoie pas à la notion de dignité en tant que protection de la personne contre elle-même, mais bien contre autrui. Le travail sexuel, dès lors qu'il implique des adultes consentants libres et éclairés, ne saurait donc être considéré comme portant atteinte à leur dignité. D'ailleurs, selon la Cour européenne des droits de l'homme, la prostitution est incompatible avec les droits et la dignité de la personne humaine, uniquement si elle est contrainte. Donc si le travail sexuel ne porte pas par nature atteinte à la dignité de la personne humaine, il arrive toutefois qu'il soit exercé dans des conditions qui y portent atteinte. Il en va ainsi en cas d'exploitation, en particulier d'esclavage, de servitude ou de travail forcé. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ainsi que son comité des ministres ont souligné l'importance de distinguer les travailleuses sexuelles selon si qu'ils sont ou non victimes d'exploitation. Enfin, dernier argument, la prostitution est une atteinte à la dignité des femmes. Donc être féministe ne signifie pas nécessairement prendre position contre le travail sexuel. Inversement, ne pas prendre position contre le travail sexuel n'exclut pas d'être féministe. Être féministe consiste à respecter la parole des femmes et à défendre leurs droits fondamentaux, peu importe l'activité qu'elles exercent. Être féministe, c'est respecter la liberté sexuelle des femmes au titre du respect de leur vie privée, sans chercher à leur imposer un schéma qui voudrait qu'elles n'aient de rapport sexuel que par amour et de manière désintéressée. Être féministe, c'est refuser de stigmatiser certaines femmes sur l'autel de la morale dominante qui condamne la prostitution.
Caléidoscope, celle qui faisait son numéro tous les soirs devant le jukebox pour les beaux dollars des gougous. J'avais tous les macs à mes pieds et tous les clients qui lorgnaient. J'étais la reine du pavé et l'oseille, ça dégringolait. mais l'ombre des plaisirs s'enfuit toujours plus loin vers l'inconnu. On m'a relégué dans la nuit au milieu des vieux tas d'invendus. Je suis la môme caléidoscope, c'est moi qui faisais le trottoir d'en face du temps où j'avais dans le carrosse une chatte qui était pas radédère. Et je carburais du siphon à détraquer tous les gravos qui devaient se faire graisser leur oignon avant de replonger au boulot. Mais la brume est tombée trop vite en oubliant les chapeaux. On m'a relégué dans la nuit au milieu des vieux tas d'invendus. Je suis la môme caléidoscope, j'avais des robes à 200 sacs et c'était pas dans le viandox qu'on pouvait me voir planquer mon frac. J'en ai connu des gigolos qu'en pince maxi pour mes miches qui m'offraient la vie de château et le foie gras dans mes sandwichs. Mais les pavots se sont fait frire dans les champs du dernier salut. On m'a relégué dans la nuit au milieu des vieux tas d'invendus. J'avais des actions dans le bitume, mais je taillais même celle du clodo qui avait jamais l'ombre d'une dune. J'étais la sainte vierge des paumées, la petite infirmière des fantômes. Je raccommodais les yeux crevés, je rafistolais les chromosomes. Mais le passé n'a pas d'amis quand il vient lécher les statues. On m'a relégué dans la nuit au milieu des vieux tas. À mon caléidoscope, mais j'ai plus de couleur à la peau. Les mecs m'ont sucé jusqu'à l'os sans même me lâcher du magot. J'habite rue des amours lynchés et je peux voir de mon gravat d'autres mômes se faire défoncer pour des clopes et de la coca. Tu peux venir là où je suis, l'ennui c'est que je ne suis plus. On m'a relégué dans la nuit au milieu des vieux tas d'avant. Là où je suis, l'ennui c'est que je ne suis plus.
Et donc c'était Thiéphène avec la môme caléidoscope. Donc pour finir, on va passer un petit extrait, mais d'abord un petit extrait. Mais d'abord, on va expliquer le contexte. Donc en 2016 a été votée la loi de pénalisation des clients en France. Donc cette loi, sous couvert de protection des travailleuses du sexe, a supprimé le délit de racolage, donc visant les personnes exerçant, mais en retournant la responsabilité vers le client. Donc elle crée également un effet pervers, donc celui de victimisation des travailleuses. Donc pour en savoir plus, je laisse la parole à Mia qui exerce ce métier depuis 5 ans.
Moi c'est Mia, je suis travailleuse du sexe depuis 5 ans parce que ce métier me convient. Aujourd'hui je fais partie des 250 requérantes qui attaquent la France à la Cour européenne des droits de l'homme concernant la loi de pénalisation des clients de 2016. Cette loi ne fonctionne pas par rapport aux objectifs de ses défenseurs. Il n'y a pas moins de traite, il n'y a pas moins d'exploitation, il n'y a pas moins de violence et au contraire.
Renforcer la lutte contre la traite et le proxénétisme, accompagner les personnes prostituées, sensibiliser toute la société, responsabiliser les clients.
Par cette loi, il y a une inversion de la charge pénale dans le milieu du travail du sexe. Avant, les prostituées étaient passibles d'une amende pour le délit de racolage instauré sous Sarkozy. Donc là, il y avait pas mal de dérives aussi, c'est-à-dire que tout pouvait être du racolage, en fait. Si vous étiez assise sur un banc, enfin, ou debout, au bord de la route, habillée un peu sexy, paf, contravention, voilà. Donc maintenant, on a inversé la charge pénale, c'est-à-dire que les prostituées ne sont plus coupables, elles sont devenues victimes. On nie notre propre existence, vous voyez, par le côté absurde de cette loi, en fait. C'est-à-dire qu'on a le droit d'exercer, mais notre client n'a pas le droit de venir nous voir. Au niveau de la sécurité, on se recule là où il n'y a plus personne pour voir le client, mais il n'y a aussi plus personne pour nous aider, en fait. Ça nous amène encore plus dans la clandestinité, en fait. On voudrait, par cette loi, combattre la traite, combattre la violence, mais en fait, ces violences, elles sont augmentées, vu qu'on est dans la clandestinité, on se cache, on protège nos clients, parce qu'on veut travailler et on veut gagner notre vie. À peu près 50% des clients ne viennent plus. Donc on se retrouve avec les mauvais clients, en fait, ceux qui négocient les tarifs, négocient le préservatif. Voilà, ils se sentent dans une sorte de rapport de force parce qu'ils sont pénalisables, donc voilà, ils en profitent, en fait. C'est vrai qu'il y a des côtés de ce métier qui sont vraiment horribles et sordides, je trouve. Mais ce vers quoi on tend, c'est sordide aussi, en fait. Là, actuellement, on a vraiment une hausse des violences et une hausse des agressions. Dans le 20h, on peut entendre une prostituée a été retrouvée découpée en morceaux dans le Rhône. Et hop, après on change de sujet. Mais n'empêche que nous, dans la communauté, on a une augmentation des violences. Et ça nous met vraiment dans un état insécuritaire. On se demande qui sera la prochaine, un peu. Moi, j'ai des collègues qui font ça parce que ça leur convient. Il y en a d'autres qui font ça parce qu'elles aiment leur métier. Moi, j'en avais marre du sexe bénévole, en fait. J'en avais marre de toute cette gratuité. Et, j'avais envie, je me rendais compte que j'adorais ça. Et un jour, j'ai eu envie vraiment d'en faire mon métier, parce que pourquoi pas. Il y en a d'autres qui font ça, mais elles n'aiment pas. Elles voudraient arrêter. Et ces personnes-là, il faut les aider, bien sûr. Il faut les aider en leur proposant une reconversion, en leur proposant... une allocation conséquente, on va dire, parce que c'est vrai qu'on peut très bien gagner notre vie aussi, voilà, pour arrêter. Il y a aussi l'appât du gain, on a très vite un engrenage qui fait qu'on a envie de continuer. Et ça, c'est vrai que c'est nous-mêmes, au sein de notre communauté, on n'a pas forcément, on n'est pas forcément toutes d'accord. Je voudrais la décriminalisation complète du travail sexuel, la dépénalisation et l'accès aux droits communs, comme tous les autres travailleurs français. Si on en parlait, si on pouvait exercer, on pourrait aussi être plus libre d'avouer, entre guillemets, ce qu'on fait. Voilà, avouer l'inavouable et dire voilà, je vis de ça, et ça me plaît ou non. D'ailleurs, on n'est pas obligé... d'avoir un métier qui nous plaît. Il y a plein de gens qui font des métiers qui leur plaisent pas.